Bienvenue dans le magazine touristique de Radio Royan Vercors en ce vendredi 2 août. Prenons la température bien sûr de ces différentes animations, sorties, découvertes, spectacles qui nous attendent pour ce dernier numéro de cette semaine. Et c'est un spécial plateau au jardin des fontaines pétrifiantes qui s'annonce. Mais juste auparavant, nous allons découvrir nos partenaires pour cette saison 2024.
Ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Tout d'abord, la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire en Royan, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux-en-Vercors. Nous remercions aussi le grand séchoir Aviné, le musée de l'eau de Pont-en-Royan et la maison-musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard. Du côté des festivals, le festival des Chapelles Royan-Vercors ainsi que le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin les offices de tourisme Vercors-Drôme avec leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royan, Saint-Nazaire-en-Royan et la Chapelle-en-Vercors, l'Arsolite à Saint-Jean-en-Royan et Indians Valley à Beauregard-Barré.
Merci à mes hôtes, Magali, jardinière en chef. Bonjour Magali.
Bonjour.
Et Zoé, également jardinière depuis un certain nombre d'années, pour qui le jardin n'a plus véritablement de secret.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Et abordons bien déjà, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore mis les pieds dans ce jardin des fontaines pétrifiantes, c'est effectivement un temps de découverte que nous allons faire en votre compagnie, déjà pour les caractéristiques principales, un portrait du jardin qui maintenant a atteint une certaine maturité puisqu'il a fêté, Magali, très récemment son anniversaire.
Cette année, nous avons fêté les 30 ans du jardin des fontaines pétrifiantes, mais pour un jardin, c'est encore jeune. Et du coup, pour l'occasion, eh bien, nous avons un jardin magnifique, comme chaque année. Alors un jardin, bien sûr, toujours autour de ces cascades, de ces bassins et de ces fontaines pétrifiantes. Beaucoup d'eau, hein. Comme tout le monde le sait, on a eu un printemps pluvieux. Donc là, le jardin est vraiment luxuriant et les visiteurs se promènent accompagnés par le bruit de l'eau.
Justement, l'eau, ce n'est pas un hasard puisque effectivement, ça se situe, le jardin, à l'aplomb d'une certaine résurgence qui fait que...
Oui, bien sûr, l'histoire du jardin, c'est l'histoire de cette cascade, cette fameuse cascade qui chute depuis le parc du château jusque dans le jardin. Les frères Jean qui possédaient le bateau à roues et qui faisaient les croisières sur l'Isère, qui ont découvert ce site et qui ont voulu le mettre en valeur. Et du coup, ils ont acheté le terrain et quand ils ont vu toute cette eau, ces cascades, ces fontaines pétrifiantes, ils ont décidé de construire un jardin autour. C'était une bonne idée parce que, bien sûr, il y a de l'eau. Donc, on peut bien sûr avoir un jardin luxuriant tout au long de l'année. Et puis, une belle exposition. Un jardin protégé par ces falaises, d'où jaillissent l'eau des fontaines. Et puis, au bord de l'Isère.
Voilà une belle inspiration pour ensuite développer tout un univers qui n'a pas fini d'évoluer d'année en année.
Bien sûr, alors le jardin a été installé, il y a un architecte paysagiste, différentes entreprises du paysage qui ont travaillé pendant 3 ans. Puis le jardin a ouvert ses portes et puis ces 30 dernières années, différents jardiniers chefs se sont succédés et chacun avec ses rêves, ses envies. Et je suis donc responsable depuis 10 ans. Et voilà. Et j'essaye de mettre en valeur vraiment le côté naturel du jardin, tout en ponctuant la visite de surprises, de mises en scène. Cette année, nous avons installé des méduses. Nous avons un aquarium de méduses un peu particulière. Il faudra venir les découvrir. Et on essaye de ponctuer la visite de découvertes artistiques ou de jeux.
Alors parlons également, puisque pour faire vivre tout cela, il faut un certain nombre de personnes, de la ressource humaine, et notamment aussi pour justement au jour le jour faire visiter et entretenir le jardin. Un jardin, rappelons-le entre parenthèses, sans artifice, Magali, hein. Vous avez commencé un petit peu à le susurrer.
Alors, comme toute bonne jardinière, je suis un peu collectionneuse. Donc, on aime bien quand même aller chercher, trouver des nouvelles variétés, des choses que personne n'a, des choses qui sont un peu bizarres, qu'on a envie de mettre en scène, d'accorder avec d'autres plantes. Et pas forcément des plantes faciles à cultiver.
Ah oui.
Donc on fait beaucoup d'expériences. On ramène des plantes qui viennent du monde entier, hein, que nous présentent des pépiniéristes, des horticulteurs. Et puis on s'amuse à les présenter aux visiteurs dans des situations ou avec des accords de couleurs et de textures particulières.
Pour donc entretenir et s'occuper de toutes ces plantes, un certain nombre de personnes autour de vous pour vous prêter main forte, eh bien, tendons le micro à Zoé, qui est aussi un peu historique du lieu. Zoé, ça fait un certain nombre d'années que vous évoluez ici.
Oui.
Depuis combien de temps, on peut le dire ?
Ça fait 12 ans.
12 ans.
12 ans.
Ah, donc vous avez une bonne idée aussi de l'évolution du jardin depuis une douzaine d'années et toutes les nouveautés, améliorations qui ont pu être apportées. Vous secondez Magali, quel est votre poste ?
Oui, enfin, on seconde tous, Magali, on seconde. Mais oui, beaucoup d'évolution dans le jardin depuis moi que j'ai commencé, puisqu'il y a beaucoup de parties qui ont été transformées, des massifs qui ont été créés, et c'est vrai que je pense qu'on a vraiment... Alors, c'est pas une question de doubler ou tripler la surface, mais on a vraiment développé, je pense que tous les recoins sont exploités maintenant de façon plaisante à l'œil.
Physiquement, le jardin s'est agrandi depuis une douzaine d'années ou il est resté dans une certaine limite ?
Alors, au niveau de sa taille, il n'a pas agrandi, mais on a développé. Il y a des endroits qui étaient un peu plus sauvages dans le jardin qui maintenant sont devenus des massifs à part entière.
D'accord. Tout le jardin, on peut dire, est cultivé dans les deux sens du terme.
Oui, pratiquement oui. Il ne reste plus beaucoup d'espace qu'on pourrait s'approprier un peu plus. Non, ça devient... Parce qu'il y a déjà les bambous qui s'en sont beaucoup appropriés des espaces, donc on leur laisse un peu de place.
Alors une jardinière comme vous, ça a plusieurs fonctions, entre s'occuper du jardin, l'entretien qui prend une bonne part de votre temps peut-être, et puis ensuite le côté guidage.
Oui, on est toutes guides jardinières, donc effectivement on fait l'entretien du jardin, de l'ouverture à la fermeture, plus pendant la journée, et les visites guidées donc qui sont en place toute la saison, principalement des groupes en mai, juin et septembre, et juillet, août, nous avons aussi des visites, ce qu'on appelle nous visites individuelles, donc qui sont réservées aux gens qui rentrent dans le jardin sans surplus de coûts, et elles sont accessibles deux fois par jour à 11h et à 15h. On se donne rendez-vous sous notre ginkgo et de là on part pour une petite visite guidée qui permet de découvrir le jardin un petit peu avec un œil conseillé. Du coup, les gens apprécient parce qu'on pointe des choses qu'ils n'auraient pas forcément vu ou pu observer d'eux-mêmes. Et généralement, ils sont plutôt satisfaits de cette petite visite.
Et vous avez chacun un peu votre caractère autour des plantes, votre spécialisation. Est-ce que chacune, vous mettez en valeur quelque chose de différent enfin, entre les
deux autres ? Je pense, oui. Alors, ce n'est pas vraiment une spécialisation, mais je pense qu'on a toutes un peu nos plantes préférées. Et c'est vrai qu'on a une visite, on va dire, on a une trame de visite un peu identique. Et après, on va mettre l'accent sur des plantes un peu coup de cœur pour nous ou des plantes qui sont en floraison ou qui sont particulièrement intéressantes à ce moment-là. Mais quelquefois, je ne sais pas, sur les deux mois, par exemple, juillet-août de visite libre, il y a des plantes dont on va parler en juillet, mais dont on ne parlera plus en août parce qu'elles ne sont plus là. Et d'autres auront remplacé la vedette.
Alors, combien êtes-vous en tout, en jardinière ?
Cinq guides jardinières, dont Magali.
Dans Magali, il y a également une notion, alors c'est saisonnier en termes d'ouverture, mais à l'année, vous avez encore des fonctions. Magali, vous êtes permanente ?
Oui, l'équipe se compose d'une personne permanente à l'année, c'est moi en l'occurrence, et puis quatre jardinières qui vont être saisonnières avec des saisons plus ou moins longues. On commence, le jardin ouvre ses portes tous les ans le 1er mai. À nos visiteurs. Nous, l'équipe de jardinières commence à travailler le 1er mars pour installer le jardin, faire un grand nettoyage de printemps et installer les nouveautés, les nouvelles mises en scène, nos nouvelles plantes collectionnées pendant l'hiver. Et on, Et ensuite, tout au long de la saison, mai-juin, c'est une période intense. Comme le disait Zoé, on a beaucoup de groupes qui réservent et qui ont donc un créneau avec une visite proposée par les jardinières. Et donc là, on reste assez nombreuses. Et puis ensuite, l'été, on commence à diminuer. Et en automne, on sera trois pour finir la saison et hiverner le jardin.
Oui, au fur et à mesure de l'avancement de la saison, l'entretien devient moins prégnant, on pourrait le dire ainsi. Pas du tout, dit Zoé.
Zoé,
on pourrait penser que ça pousse
tête.
Moins alors qu'il y a moins de boulot, mais non.
Oui, mais il y a plus de feuilles qui tombent.
Ah, les feuilles.
Il y a toujours beaucoup de travail. Après, effectivement, le printemps, c'est une période intense parce qu'on fait beaucoup de guidage et du coup, on a moins de temps pour notre jardin. Et puis, au printemps, il faut envisager ce qui va se passer aussi en été. Donc, il faut dompter un peu les plantes qui auraient tendance à envahir tout le monde et à vouloir prendre toute la place et essayer d'être là, nous, un petit peu en chef d'orchestre pour que le jardin reste beau tout au long de la saison jusqu'à sa fermeture au 29 septembre cette année.
En ce qui concerne le jardin de fontaines pétrifiantes, peut-être par rapport à d'autres activités, a connu aussi un printemps assez pluvieux. C'était aussi l'anniversaire, les 30 ans, il y a comme ça des corrélations un peu singulières. Et ce qui a fait que vous avez dû vous adapter, ça a donné aussi de belles opportunités, ces temps pluvieux. Un côté un peu d'abondance qui s'est révélé.
Il a fallu s'adapter, nous on s'est adapté, les plantes se sont adaptées. Oui, un printemps pluvieux et frais. On a eu des températures très basses début mai. Ça, c'est plutôt problématique parce qu'on installe des plantes, elles sont jeunes et elles ont besoin quand même d'un climat sympa pour pouvoir pousser. Mais on a eu des belles surprises aussi, bien sûr. Des plantes qu'on appelle à grosses feuilles, à gros développement, ont été vraiment géantes cette année. On a un tétrapanax qui nous a bien dépassé en taille et qui est vraiment énorme avec des feuilles très impressionnante, on ne l'avait jamais vu avec des dimensions aussi importantes. Il y a vraiment du gigantisme dans le jardin cet été.
La jungle s'est révélée aux fontaines pétrifiantes, c'est un peu ça.
Oui, alors bien sûr, on a toujours de l'eau, toujours nos cascades, mais c'est vrai que l'eau de pluie, c'est vraiment pour les plantes, c'est vraiment formidable. Et là, elles ont eu tout leur soul et on a vraiment des choses. On a eu un Gunera aussi qui est magnifique cette année.
Voilà, une jungle maîtrisée, puisqu'il y a toujours votre attention qui fait que vous faites en sorte que les choses soient bien raisonnées dans l'avancement de ce jardin et des nouveautés. Alors, il y a des choses cette année que vous avez tenté, Magali, et qui ont porté leurs fruits ou pas, des nouveautés à découvrir pour le public.
Oui, bien sûr. Alors au niveau des plantes, on a un petit passage au milieu du jardin, tout à côté de nos plantes carnivores qui se portent elles aussi très bien grâce à la pluie, que nous avons beaucoup plus végétalisé. Et c'est un endroit ensoleillé, donc on a pu implanter des eucalyptus, des graminées avec différentes couleurs, de l'ocre jusqu'au panaché vert et blanc. Et du coup, on a vraiment là un petit chemin qui se découvre maintenant, alors qu'avant, c'était un espace plus ouvert. Et voilà, on a retravaillé cet endroit et eucalyptus, érigérons et déliserons. Mais déliserons auxquels on tient, pas les liserons qui envahissent nos jardins et nos potagers.
Chaque année, vous mettez en scène le jardin différemment. Vous donnez un aspect scénaristique. Chaque année différente d'une année sur l'autre.
Oui, chaque saison, on veut proposer aux visiteurs nouveaux, primo visiteurs et à ceux qui reviennent, des découvertes. Donc, on peut venir régulièrement au jardin des fontaines pétrifiantes et on aura toujours des nouvelles choses à découvrir dans les plantations et dans les mises en scène. Des petits clins d'œil parfois un peu cachés qu'on ne découvre pas au premier regard. Ça, c'est important pour nous, on aime beaucoup faire ça. Et présenter des graphes d'artistes, par exemple, présenter des mises en scène. Et puis aussi des coins où il y a un peu plus d'interaction, où les visiteurs vont pouvoir jouer. Donc là, on a cette année toujours notre parcours des senteurs, où on peut jouer avec son nez, découvrir des odeurs. Et puis on a installé un parcours pour essayer de découvrir les chants d'oiseaux. Donc on va pouvoir aller au niveau de petits nichoirs installés, entendre des chants d'oiseaux et essayer de deviner. Des oiseaux qui sont présents dans le jardin et qui, avec le bruit de la cascade et de l'eau, on n'entend pas toujours très bien. Et du coup, là, on les met en valeur par leur chant.
Parce que le jardin, c'est un peu les cases des cinq sens qui sont cochés. Hein. Déjà la vue, un petit peu l'odeur quand même. L'ouïe, hein. Zoé, n'est-ce pas ? Ça coche un petit peu toutes les cases.
Oui, oui, parce qu'on a aussi des plantes odorantes, comme la plante camembert. Ah. C'est assez original. On a des pélargoniums qui sentent la menthe, qui sentent la rose. Donc c'est vrai qu'il y a le sens olfactif est très, très chatouillé, on va dire, dans notre jardin.
Tant au niveau des plantes qui poussent, et également aussi des petites installations. Il y a toujours, ça c'est encore d'actualité, des petits dispositifs qui permettent d'essayer de repérer de manière olfactive les plantes dont il est question.
En fait, le parcours des senteurs, ce sont des huiles essentielles qui parfument les bambous et ce ne sont pas forcément des plantes que l'on retrouve dans le jardin, exception faite du dernier. Alors on ne va pas le dévoiler puisqu'il faut que les gens fassent travailler leur odorat. Mais voilà, le dernier bambou est parfumé avec une plante du jardin.
C'est finalement très démocratique, les sens, découvrir aussi cet aspect d'odeur, de parfum pour tous les âges. Ça peut aussi bien motiver les petits que les plus anciens.
Tout le monde prend plaisir. Souvent, la découverte se fait en famille et c'est vrai que les gens apprécient toujours ce petit moment. En plus, c'est un endroit, un chemin ombragé, donc quelquefois par forte chaleur, c'est toujours agréable de se promener au milieu des bambous senteurs.
Il y a un aspect de recherche aussi. Magali, vous évoquiez les nichoirs des oiseaux. Il y a un peu des spécialistes qui, au fur et à mesure du temps, analysent le jardin.
Oui, en particulier cette année. Justement, on avait le retour des gens qui nous disaient « on ne voit pas d'oiseaux, on n'entend pas les oiseaux ». Alors nous, on sait qu'ils sont là parce qu'on les voit tôt le matin et puis on voit leurs traces, on voit les nids, on voit tout ça. Mais on voulait mettre en valeur un petit peu les oiseaux du jardin. Jean-Christophe Cordara est venu et vient encore une fois par mois pour faire un inventaire. Mmh. Et puis, à partir de cet inventaire, il nous propose d'installer des nichoirs adaptés pour les espèces du jardin, pour les nourrir correctement en hiver, leur permettre de trouver des abris. Et c'est avec lui qu'on a développé ce jeu où on peut reconnaître, entendre des chants d'oiseaux.
Les oiseaux autochtones, donc, de la Saône.
Oui, bien sûr. Qui sont là toute l'année ou qui sont de passage. On s'est rendu compte qu'en fait, là, on en est à plus de 30 espèces d'oiseaux vues dans le jardin.
Voilà, le jardin connecté à son environnement, tout comme aussi cette rivière Isère. Je serais curieux de savoir quel est votre regard, votre ressenti chaque jour quand vous venez au jardin sur l'Isère qui coule, la toujours un petit peu le même profil ou ça change? Vous aimez l'observer?
Oui, on l'observe. On l'observe. Effectivement, elle est présente dans le jardin. On la voit à de nombreux endroits dans le jardin. Elle fait vraiment partie de notre décor. Et effectivement, elle change de décor. Donc il y a des matins, on arrive, on a l'impression qu'on vient travailler dans un jardin au bord de l'Amazone. Elle est énorme, elle est noire, comme disent les gens. Parce que là, on voit bien qu'elle transporte de l'ardoise et qu'elle charrie. Et du coup, elle a cette couleur sombre qui me rappelle l'Amazone. Et puis après, quand elle va un petit peu se calmer, elle va prendre des couleurs vert, bleu, lagon. Et là, on va avoir l'impression le matin d'arriver pour travailler dans un jardin aux Caraïbes.
Ah oui.
Et du coup, oui, elle va changer l'atmosphère du jardin. Elle va, elle est en fond de jardin, on a ce paysage qui change.
C'est également votre ressenti, Zoé, par rapport à l'Isère. Vous aimez l'observer?
Oui, bien. Et les visiteurs aussi, particulièrement cette année où on a eu quand même des crues importantes et diverses choses qui se promènent sur l'Isère après les lâchers de barrage. Et les gens, du coup, ont investi une partie du jardin, une petite partie, mais où ils n'allaient pas avant, et pour se coller contre les traverses, parce qu'ils sont vraiment impressionnés par le débit de l'Isère. Ça a été vraiment une découverte cette année. Ah tiens, il y a une petite partie qui a été... Voilà, c'est aux visiteurs maintenant, ce petit morceau de jardin, pour observer l'Isère de près.
l'Isère peut arriver à recouvrir les berges.
Moi, je n'ai jamais vu l'Isère sortir de son lit et envahir le chemin de halage.
Il y a tous les barrages en amont, en aval, qui font que ça fait une certaine régularité aussi, peut-être.
Oui, ils arrivent très bien à réguler. Alors, elle est plus ou moins haute, avec un débit plus ou moins important, mais non, on ne l'a jamais vu déborder.
Oui. Puisqu'on parle de débit d'eau, un débit d'eau constant par la source, cette résurgence qui sort de cette grande poche des champs barrants, est-elle toujours régulière ou il y a des variations dans l'année ?
L'eau qui arrive dans le jardin sous forme de cascade ou qui ruisselle sur les fontaines pétrifiantes a un débit assez régulier, un débit important.
Oui.
Et régulé tout au long de l'année. En général, quand il pleut beaucoup, on n'a pas d'inondation à gérer. Il n'y a pas plus d'eau, heureusement, parce que notre jardin est quand même réglé au millimètre. On a des bassins à débordement partout. On a des chemins où on permet aux gens de marcher sur l'eau. Donc, il faut qu'ils continuent à marcher au-dessus du niveau de l'eau. Et tout notre jardin est vraiment réglé et on se rend bien compte qu'on a un niveau d'eau régulier et que l'été, quand partout il manque d'eau, nous, on a toujours autant d'eau. Cette année, printemps en particulier, moi, ça fait 18 ans que je suis là, je n'avais jamais vu autant d'eau dans le jardin.
Ouais.
Voilà. Donc, il a fallu gérer une abondance d'eau au niveau de la cascade, sur les fontaines pétrifiantes, et essayer de canaliser cette eau pour pas qu'elle fasse de dégâts, bien sûr, dans nos massifs, et puis pour conserver cet aspect moussu de nos jolies mousses vertes qui recouvrent les fontaines pétrifiantes, pour pas qu'elles soient complètement pétrifiées.
Et le tuf également, c'est une de vos préoccupations constantes, le tuf, puisque ça vit, ça bouge, ça grossit.
Oui, alors cette eau qui arrive en abondance, elle est très calcaire, et elle va déposer une grande partie de son calcaire dans notre jardin, sur des mousses, sur des feuilles, sur des branches, sur le calcaire lui-même. Ces fontaines pétrifiantes qui se créent sont très changeantes, elles vivent. On les voit changer de forme, grossir. Et c'est une grande partie de notre travail de faire en sorte que ces tuffières ne modifient pas, en tout cas, la circulation de l'eau.
Ouais.
Pour ne pas à nouveau être inondé, qu'il y ait des dégâts dans les massifs. Donc oui, on va faire en sorte que ce tuf ne dérange pas l'eau qui circule dans le jardin. C'est-à-dire qu'on va casser du tuf et on va en évacuer une partie.
Bah, chaque année, toujours un petit peu raboté pour essayer de contenir cette matière assez envahissante, pas dans un contexte péjoratif, mais quand même, ça grossit et ça bouge, ça demande de l'entretien. Parlons, si vous le voulez bien, par rapport à ces 30 ans du jardin, vous avez marqué le coup pour donner une autre dimension. Parler des cinq sens, il y a aussi donc, l'écoute, l'écoute des oiseaux, de l'eau, mais également de la musique.
Oui, c'était vraiment une envie de fêter les 30 ans avec nos visiteurs et du coup de proposer chaque dimanche de notre saison un musicien dans le jardin tout au long de la journée. Un musicien et son instrument. Donc nous avons pu accueillir accordéonistes, harpistes, pianistes, violonistes. Et ça nous permettait de fêter avec plus grand nombre ces 30 ans. Et les prochaines dates, le dimanche prochain, nous aurons un pianiste au jardin. Le dimanche d'après aussi. Et pour le 11 août, nous aurons une harpiste. Et le 18 août, du violon. Donc, n'hésitez pas. Il faut venir voir ces musiciens, mettre en musique le jardin. C'est tout à fait magique.
Voilà, chaque dimanche, des esthétiques musicales assez différentes. Et comme ça, jusqu'en fin d'été, même plus largement.
Oui, alors on a commencé le 5 mai. Le premier dimanche de notre saison 2024 et ça se terminera le 29 septembre, le dernier jour avec un orgue de Barbarie.
Voilà, dernier jour de la saison pour le jardin, le 29 septembre.
Oui.
Eh bien, merci beaucoup Magali, chef jardinière, pour vos explications. Merci beaucoup également Zoé, qui connaît également le jardin comme sa poche, et on donne rendez-vous aux familles, à toutes celles et ceux qui, avec un tout petit peu de curiosité, seront émerveillés à découvrir toujours ce site en bordure d'Isère dans le village de la Saône. Et le beau temps aussi qui fait partie maintenant de cet été, c'est parti.
Oui, l'été est arrivé, n'hésitez pas. On est ouvert de 10h à 17h. Fermeture du jardin 18h15, mais dernière entrée 17h15. N'hésitez pas à venir en famille.
Suffit de venir spontanément comme ça, ou alors une notion de réservation ?
Oui, nous avons un site internet, vous pouvez acheter vos billets sur le site Visite Nature Vercors, où vous pourrez choisir un créneau horaire de visite, et vous pourrez choisir le créneau qui inclut la visite guidée par une jardinière si vous le souhaitez.
Eh bien, merci Magali, merci Zoé, et à très bientôt au jardin de fontaines pétrifiantes à la Saône.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir. Nous poursuivons ce magazine touristique sur le Royan-Vercors Sud-Grésy-Vaudan avec notre agenda du jour. Et réalisé grâce à nos partenaires.
Ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Tout d'abord la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royan, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux en Vercors. Nous remercions également le Grand Séchoir à Vinay, le musée de l'eau de Pont-en-Royan et la maison-musée des Amis de la mémoire du Royan à Rochechinard. Du côté des festivals, le festival des chapelles Royan-Vercors et le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin, merci aux offices de tourisme Vercors-Drôme, avec leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royan, Saint-Nazaire-en-Royan et la chapelle en Vercors. Merci à l'Arsolite à Saint-Jean-en-Royan, ainsi qu'à Indians Valley à Beauregard-Barré.
Deux rendez-vous sensations à découvrir pour demain samedi. On débute avec une via corda. Il s'agit bien de s'accrocher de manière très sécurite à une corde pour ensuite suivre un parcours et une vue exceptionnelle avec Rêve de Cime. C'est à la journée. Et Via Corda de Saint-Martin vous donnera un peu le menu de ce parcours qui peut être effectué dès 14 ans. Tarif unique à partir de 70€. Voilà, il y a l'accompagnement et aussi tout le matériel nécessaire pour votre bon cheminement. Et c'est le samedi que cela se déroule. N'hésitez pas à les contacter. Le numéro de téléphone peut se retrouver assez facilement dans les gazettes de l'office des offices de tourisme Vercors-Drôme. Tout comme aussi le numéro de cette sortie spéléologie avec Vercors plein air qui vous convie dans une cavité qui peut être visitée assez facilement, même en famille. C'est une sortie ludique et pédagogique que vous propose à cet effet Vercors plein air pour le prix de 50€. Un été street art à la campagne, un rendez-vous estival du côté de Saint-Nazaire-en-Royan avec Rue Art Graff en Vallée. C'est la toute première édition de ce festival jusqu'au 29 septembre à Saint-Nazaire-en-Royan. À l'initiative de cette association pour qui la création est un maître mot, créativité, interaction et puis également diversité culturelle. Une dizaine d'artistes sont accueillis durant tout l'été pour réaliser de véritables œuvres d'art dans les rues de Saint-Nazaire-en-Royan. N'hésitez pas à les arpenter, même pourquoi pas à se perdre, découvrir des murs qui supportent des graphes très bien réalisés avec aussi des peintures en live. Première chronique touristique de cet agenda aujourd'hui, et c'est le cinquième épisode de la visite de la maison-musée du Royan à Rochechinard. Nous sommes toujours en compagnie de ce personnage historique qui nous détaillait cette collection permanente. Donc, dernier épisode à suivre aujourd'hui pour cet agenda. Chronique touristique à la maison-musée du Royan à Rochechinard. Découverte de l'exposition permanente avec Alain Derbier.
La pièce suivante, nous sommes dans les sous-sols et on va parler de ce qui a été vraiment la vie dans le Royan au 19e siècle. Alors tout de suite quand on rentre, on voit un petit papier, un guide, sous verre, le guide du bon sériciculteur. Sériciculteur, c'est l'homme qui fait quoi? Des vers à soie. Voilà. Alors on avait toujours fait du vers à soie dans le Royan, mais comme je le dis souvent, c'était le vers à soie, on l'appelait pas le vers à soie, on l'appelait le mignon ou le magnon. C'est-à-dire qu'il était élevé comme l'enfant, dans des corbeilles, comme ça là-bas derrière, autour de la cheminée. Et même, ces dames mettaient à éclore les petits œufs, que l'on appelait des graines, sur elles, entre leurs seins ou sur leurs haines. Hein, donc on voit que c'était vraiment... À partir de Napoléon Ier et d'un décret, et surtout l'installation d'une prime, qu'on appellera la prime au vers à soie, qui s'est éteinte, je pense, il n'y a pas longtemps, tout va changer. C'est d'ailleurs ce qui va très souvent modifier les maisons du Royan, dites de type alpo-provençal comme celle-là. Elles viendront de type rodanien, c'est-à-dire plus élevées, avec un toit à quatre pans, puisque très souvent, les pièces du premier étage deviennent des magnaneries, hein, et des lieux donc très sains. Très très sain, avec des fenêtres que l'on peut ouvrir, fermer, des cheminées pour chauffer, ainsi de suite. Les conditions d'hygiène pour toucher la prime doivent être maximum. Fini les méchantes corbeilles en osier, mais des cadres aux dimensions que l'on nettoie, que l'on chaule, comme les murs de la magnanerie, de façon à ne pas avoir d'épidémie. Je ne me lancerai pas dans toute l'histoire de l'évolution du verre à soie, mais on s'arrêtera vers cette machine qui porte un nom amusant, la décoconneuse. Mais parlons français, la débourroteuse. Lorsque le cocon était arrivé, il y avait un grand jour dans la maison, c'était le jour du décoconnage. La descente des cocons, de ces petites branches dans lesquelles ils s'étaient installés. Donc on va chercher cette machine que l'on a à deux ou trois dans le quartier, et on va verser donc ces cocons sur le plateau de cette machine pour libérer les fils fous, par l'intermédiaire de cette manivelle qui va les entraîner, et les débris aussi de bruyère. Le cocon va tomber ici, il sera propre, et l'on pourra le porter à la vente, au négoce. Mais avant, il faudra bien sûr déclarer la quantité, cela en présence en général du garde champêtre, qui ou d'un représentant de la perception, de façon à toucher la fameuse prime au ver à soie. Sont très souvent là qui attendent lors de cette manifestation de la pesée, eh bien les marchands de cocons, dont cette famille de Romans qui nous a offert ce beau container, donc en osier, de la famille Lacroix, grosse famille de négociants en cocons de Romans. On voit très bien, on comprend très bien le beau décor que devait être ces charrettes à cheval remplies de ce genre de corbeilles.
Ça a décoconné à certaines... moments de l'année, des moments particuliers ou...
Alors, le travail du verre à soie était, excellente question, est très, très dépendant de la feuille de mûrier. Donc, pour mettre à éclore, on regardait où en était le cycle végétatif et le regard se portait sur l'aubépine. Mais ensuite, c'était des feuilles de mûrier que ça dure, je ne me souviens plus, mais c'est un laps de temps très court. En mai-juin, quelque chose comme ça, laps de temps très court. Et donc, le décoconnage se faisait dans le temps qui suit. Hein, quand on descendait les cocons, on faisait ce travail dans l'enchaînement. Hein. Il restait très peu ensuite. Ils quittaient la maison, c'était fini. Hein, ils étaient rentrés dans le monde du commerce.
Fin de cette chronique touristique à la maison musée du Royan à Rochechinard. Une visite commentée par Alain Derby. À retrouver dans quelques minutes la deuxième chronique de cet agenda consacré au musée de la préhistoire de Vassieux en Vercors. Mais à présent, voici ce qui va composer peut-être votre soirée. Pas mal de choses en perspective hein, sur nos territoires. Avec tout d'abord au Grand Séchoir Maison du Pays de la Noix à Vinay, l'apéro-concert en compagnie de Théo Didier dès 19h. C'est ainsi que le Grand Séchoir fête les vendredis soirs cet été avec ses apéro-concerts et des artistes chaque semaine qui se succèdent sur les planches de cette structure qui est partenaire de Radio Royan Vercors pour ce magazine touristique. Tarif unique 15 euros pour cet apéro-concert de Théo Didier ce vendredi soir à 19h. Dans un autre registre, pratiquement équivalent entre musique et aussi dégustation, mais là il s'agit plus de gastronomie qu'un simple apéro, puisque ce sont les vendredis du Parvis Dîner plus musique sur le Parvis du Musée de l'eau à Pontarlier, rock au féminin aujourd'hui avec Julie, en ce vendredi 2 août. N'hésitez pas à contacter le Musée de l'eau de Pontarlier pour réserver votre table. Et c'est le démarrage aussi en ce vendredi 2 août de la traditionnelle vogue annuelle de Cognat-les-Gorges. Jusque dimanche, beaucoup d'animations, beaucoup de loisirs et beaucoup de festivités et convivialité naturellement. Ce samedi 3 août réservera beaucoup de surprises, de découvertes, de spectacles notamment avec ce fabuleux voyage de la petite fille aux Amulettes proposé à l'hostel Quartier Libre du Col de la Machine entre 18 et 19h. Tarif unique, il vous conviendra puisque c'est un prix libre. Un conte terrible et merveilleux sur l'enfance, la nécessité de grandir et l'émancipation. Un spectacle familial dès 6 ans, dès 18h. Et c'est le coup d'envoi demain samedi de cette traditionnelle fête sur le plateau du Vercors qui s'est légèrement agrandie cette année puisqu'elle ne se cantonne plus seulement au village de Saint-Martin en Vercors mais beaucoup plus largement. Ce bazar de Saint-Martin qui fait son cirque entre les 5 communes du Vercors, la chapelle aussi donc aux côtés de Vassieux, Saint-Julien, Saint-Martin, Rancurel également, tous les jours de 10h à 22h avec la compagnie La Sirène qui, avec son métronome, règle tout ça de très belle manière. Et pas moins de 150 habitants sont investis par cette fête, par le théâtre, la chanson et plus globalement la joie de vivre. Ce samedi 3 août sera également le coup d'envoi du Comice agricole 2024 d'Aubrive en Royan avec à l'affiche concours bovin, animaux de la ferme, marché fermier, débardage à cheval, spectacle équestre, jeux buvettes, animation et restauration. Et ces 3 et 4 août, cela va résonner de belle manière dans la cité Antonine avec ces médiévales 2024 qui vont investir la commune et pas moins de 60 représentations chaque jour entre samedi et dimanche sur 12 espaces scéniques. Il y aura des caravanes sérailles, musique, déambulation, combat, des ateliers, démonstrations, spectacles de feu et équestre. Un feu d'artifice de Moyen-Âge à Saint-Antoine-l'Abbaye. C'est samedi et dimanche de 12h à pratiquement minuit. Notre deuxième chronique touristique est un extrait d'un reportage au Musée de l'eau de Pontarlier. Le Musée de l'eau qui, je vous le rappelle, organise les vendredis du Parvis avec Julie ce soir. C'est également une exposition temporaire liée au dessin de presse Cartoons sur le pont. Pour nous en parler plus précisément, je vous propose d'écouter les propos de Jean-Christophe Berru, directeur de la structure du Musée de l'eau de Pontarlier. Une exposition temporaire aux côtés de bien d'autres. Et puis évidemment, sa collection permanente de bouteilles d'eau et le bar à eau vous attend tous les jours actuellement. Pour l'heure, c'est Cartoons sur le pont qui nous intéresse. C'est Jean-Christophe Berru.
Cette année, on a choisi d'accueillir France Cartoon et Pierre Balouet, qui est un grand dessinateur de presse local, puisqu'il est à Chevrière. Et il est président de France Cartoon et aussi vice-président de Cartooning for Peace. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est-à-dire, on a une trentaine d'artistes francophones, mais il y a aussi des Italiens, enfin un petit peu européens, ils parlent le français, mais qui ont fait une production de 200 dessins qu'on a mis en scène dans tout le musée, mais aussi à l'extérieur pour le partager avec le grand public, et qui abordent des sujets graves sur le ton de l'humour, parfois noir, souvent noir, mais ça permet d'aborder avec un peu de légèreté des sujets très très graves, hein, de pollution, tout ce qu'on voit, on entend de plus en plus à la télévision, les sécheresses, la surexploitation. Et donc on a cette ribambelle d'espèces en voie de disparition aussi, puisque la liberté d'expression devient frileuse, tiède. Depuis Charlie Hebdo, plus personne n'ose utiliser des dessins de presse. Donc on a une espèce en voie de disparition. D'ailleurs, Pierre a fait une affiche à cet effet. Et surtout, ça nous permet de passer un message auprès des scolaires, puisqu'on va monter des comités de rédaction de presse, former des lanceurs d'alerte, gentiment, on n'est pas dans le dur, pour qu'on puisse diffuser encore notre bonne parole.
Merci à Jean-Christophe Béru pour ses explications pour Cartoons sur le pont au musée de l'eau de Pont-en-Royans. Précisons d'autres activités et puis aussi des moments conviviaux à la chapelle en Vercors, à la fraîche comme on dit, à l'apéro-concert ce samedi 3 août pour passer une agréable soirée au cœur du village en profitant d'un concert, d'un petit temps de repas ou de buvette. Ambiance garantie sur la place du village de la chapelle de 19h à 21h. Et poursuivons avec un vide-grenier ce dimanche 4 août à Saint-Martin-en-Vercors. L'accueil des exposants s'effectue à partir de 7h30. Cela se déroule place de l'Ours. Et nous revenons un temps à Saint-Antoine-l'Abbaye pour le concert du dimanche soir avec un récital d'orgue de Dominique Joubert, dimanche 17h dans l'église abbatiale. Et c'est ainsi que nous refermons cet agenda et magazine touristique pour aujourd'hui, en sachant naturellement qu'il y a notre dernière chronique à vous présenter et qui se situe au musée de la préhistoire. C'est le 5e et dernier épisode de cette semaine pour cette chronique préhistorique réalisée au musée Avassieux en Vercors.
Dès que les hommes sont chasseurs, ils chassent, ils sont cueilleurs, ils cueillent des fruits, ils cueillent des graines sauvages, et ils sont nomades, c'est-à-dire qu'ils se déplacent. Ils suivent les troupeaux, par exemple, d'animaux pour les chasser. D'accord ? Donc, suivant les périodes de l'année, ils vont être à différents endroits, ils vont se déplacer. Ça, c'est le paléolithique. Et le néolithique, eh bien, il y a une chose qui change, c'est que les hommes, au lieu d'être chasseurs, ils deviennent éleveurs. Au lieu d'être cueilleurs, ils deviennent agriculteurs. Et au lieu d'être nomades, ils deviennent sédentaires. Il y a des villages qui vont se construire. Eh bien, en Europe, le néolithique, il commence à peu près ici, en Europe, en France, notamment. Il y a 5000 ans, un peu plus de 5000 ans, tout petit peu plus de 5000 ans. Mais ça a commencé à un endroit qui s'appelle le croissant fertile, c'est la Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak, l'Iran. Eh bien, à cet endroit-là, le néolithique a commencé il y a 10 000 ans. D'accord ? Il a fallu à peu près 5000 ans pour que ça arrive en Europe. Ça s'est petit à petit répandu. D'accord ? Alors les agriculteurs, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont faire pousser des céréales, notamment.
Tu t'appelles ?
Evan.
Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu es en train de faire ?
Des grains, il y a un gros caillou assez plat et un caillou plutôt rond qui sert à écraser le grain pour faire de la farine.
Est-ce que c'est dur ?
Oui.
Tu n'avais jamais fait avant ?
Non, c'est la première fois.
Et toi, comment tu t'appelles ?
Tom.
Est-ce que tu y arrives bien ?
Ouais. En fait, je fais du mieux que je peux. Ça, c'est très compliqué.
Et tu le savais avant comment on fait de la farine ?
Moyen.
T'as quel âge ?
J'ai 8 ans.
Et toi ?
Je vais avoir 13 ans.
On a fait à peu près 150 grammes de farine en 3 quarts d'heure de temps et on était un petit peu plus de 20. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire. Et puis cette farine, on en a fait des petites galettes qu'on a fait cuire sur les pierres préalablement, qui avait chauffé autour du feu qu'on avait allumé tout à l'heure.
Alors moi, je suis la grand-mère de trois enfants que j'ai accompagnés aujourd'hui à l'atelier de Meunier. Et j'ai trouvé très, très agréable parce que pour les enfants, c'est effectivement une découverte. Et puis le monsieur qui encadre a bien expliqué toute cette période où les gens fabriquaient eux-mêmes leur pain. Donc là, voilà. Donc là, on se dirige vers le tipi pour la dégustation des fameuses petites galettes.
Merci.
Ah ouais, allez, hein. Bon,
merci. Bah ouais, ouais.
C'est la fin de ce magazine touristique. Avant de nous quitter, vous rappelez les différents partenaires qui nous aident à réaliser ce temps d'information du lundi au vendredi, 9h, 12h, 18h.
Ces magazines touristiques sont réalisés en collaboration avec nos partenaires. Tout d'abord, la grotte de Choranche, le bateau à roues et la grotte de Thaïs à Saint-Nazaire-en-Royans, ainsi que le jardin des fontaines pétrifiantes à la Saône. Plusieurs musées également, le musée départemental de la résistance du Vercors, le mémorial de la résistance en Vercors et le musée de la préhistoire du Vercors à Vassieux-en-Vercors. Nous remercions aussi le Grand Séchoir Avinet, le musée de l'eau de Pont-en-Royans et la maison-musée des Amis de la mémoire du Royans à Rochechinard. Du côté des festivals, le festival des Chapelles Royans-Vercors ainsi que le festival Texte en l'air à Saint-Antoine-l'Abbaye. Et enfin les offices de tourisme Vercors-Drôme avec leurs trois antennes à Saint-Jean-en-Royans, Saint-Nazaire-en-Royans et La Chapelle-en-Vercors, L'Arsolite à Saint-Jean-en-Royans et Indians Valley à Beauregard-Barré.